Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h47, vous écoutez Fréquence Protestante au 100.7 FM et nous sommes en 2020, l'année du changement. Je vous souhaite à tous, au nom de toute l'équipe, une superbe année, qu'elle soit lumineuse, inspirante et pleine de gratitude. Ce soir, nous vous emmenons avec nous dans le passé, au temps des Lumières de la paix de Bethléem, dans le présent avec le succès de l'action Un foulard pour tous et en plein cœur du mois de janvier avec le Dry January. On vous le rappelle, vous pouvez réécouter l'émission en podcast ou suivre notre actu en rejoignant la page Facebook 16 Discoute. Et n'oubliez pas que l'émission recherche toujours de nouveaux bénévoles pour enrichir ses programmes. Si vous aussi vous rêvez de connaître l'envers du décor, contactez-nous sur notre mail 16discoute@eeudf.org. Alors, première partie d'émission. Du 15 décembre dernier, une délégation de scouts du mouvement EEUDF et scouts et guides de France sont partis à Vienne chercher la lumière de la paix de Bethléem, qui symbolise la paix, pour la rapporter en France et dans leurs unités pour la diffuser. Avant de vous présenter nos super invités, on va écouter un petit reportage préparé par Patrick Ballas, qui faisait partie de l'équipe.
Est-ce que les bleus sont au complet ? Est-ce que les rouges sont au complet ?
Allez les filles, vous êtes 13, bravo.
Je vais me diffuser toutes les lumières.
Pour avoir le dernier bout de clé, il faut les faire disparaître. Et comment on fait disparaître ce nombre? En lui parlant de la joie, de tout ce qu'elle déteste, de la joie, de la paix.
Il faut trouver le code téléphone là, machin.
On va voir si ça veut dire quelque chose.
En gros, les autocollants, vous les mettez comme vous voulez. Le papier crépon, faut le couper et vous mettez de la colle sur la vitre ou sur le... ici et ça va coller après, ok? Faut que ça soit transparent. On va vous aider de toute façon.
On a 8 lanternes en tout, donc ils peuvent en faire 2 par équipe.
Ouais. Une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Palapalapa.
Je suis actuellement devant la cathédrale dans laquelle a eu lieu la magnifique célébration. C'était hyper émouvant de voir autant de gens rassemblés. Et incroyable de voir la grandeur, enfin le mouvement dans lequel on appartient, quoi, et les valeurs qu'on partage tous. Donc on repart avec plein de belles images en fait. C'était trop cool.
Seigneur, merci de nous avoir donné la vie. Merci pour les scouts que nous rencontrons à Vienne. Nous te prions pour les personnes dans la rue ou à l'hôpital, dans un pays en guerre ou dans un pays pauvre, pour les scouts du monde entier. Donne-leur de s'entraider. Donne-leur la paix et la joie. Amen.
Moi, ce voyage de Bordeaux, de Vienne à Bordeaux, ça a changé ma vie.
Nous voulons donner la lumière à ceux qui le veulent, aux gens dans la rue, à des personnes en difficulté, à des gens dans des hôpitaux.
Aider les personnes en prison et leur donner de l'espérance.
Moi, ce voyage de Vienne à Bordeaux, ça a changé ma vie.
Nous voulons donner la lumière à ceux qui le veulent, aux gens dans la rue, à des personnes en difficulté, à des gens dans des hôpitaux.
Aider les personnes en prison et leur donner de l'espérance.
Moi, durant le voyage de Bordeaux à Vienne, puis de Vienne à Bordeaux, j'ai vu sur la terre
d'autres cultures, des façons de s'habiller, de parler, de cuisiner, des endroits différents, le Danube, en partie gelé,
de la neige, du froid et Vienne. Moi, durant le voyage de Bordeaux à Vienne et de Vienne à Bordeaux, j'ai rencontré des amis.
Des scouts de toute l'Europe, des SGDF et des EEUIDF.
Victoria, l'enfant qui a rapporté la lumière
et plein d'autres encore.
Alors, nous sommes en plateau justement avec Gabrielle, Valentine, Margot et Marie. Gabrielle est membre de la commission vie spirituelle. Valentine, Margot sont louvettes aux EUDF. Et Marie et Jeannette au Scout et guide de France. Ça fait une belle brochette de filles. Bonsoir à toutes et merci d'être là.
Comment s'est passée l'expérience? Le train, le voyage, l'organisation?
À vous les filles, approchez-vous des micros.
C'était la première fois que je faisais un voyage aussi long.
Alors, nous avons pris un train pour aller jusqu'à Francfort. À Francfort, nous avons attendu 5 heures dans une salle qui accueille les personnes qui attendent leur train ou qui ne savent pas quoi faire pendant les vacances, pendant les fêtes.
Ensuite, on a pris le train couchette et on est arrivé à Vienne. Du coup, on est allé à l'auberge et...
Et quoi, pardon? T'allais dire quoi, Margot?
À l'auberge jeunesse.
Ah, ok.
Et ensuite, on est allé faire un jeu dans le parc pour visiter Vienne. Un gros jeu de piste.
Ok. Et c'était la première fois que vous preniez un train couchette, par exemple?
Oui.
Oui. Oui.
Et alors, comment ça s'est passé?
C'était bien. Par contre, les espaces entre les couchettes étaient un peu petits.
Vous avez bien dormi?
Oui, on a eu froid.
Oui, il faisait froid. Le matin, on a vu la neige par la fenêtre.
C'est cool, ça.
C'était un beau paysage.
Cool. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, une fois que vous êtes arrivée à Vienne, t'as parlé d'un grand jeu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que vous avez fait?
On a rencontré des scouts d'autres pays. Mais qui étaient français, c'était des français qui étaient partis habiter dans d'autres pays. Et du coup, on a joué avec eux pendant l'après-midi.
C'était des scouts de Budapest, de Vienne et de Munich.
Et de Hongrie.
Oui, Budapest, oui, c'est en Hongrie, je crois. Mais bien vu, les filles, vous répondez super bien. Et qu'est-ce que vous avez découvert, si vous nous racontez qu'est-ce qui vous a marqué?
L'échange de foulards avec les scouts étrangers qui ne parlent pas forcément notre langue.
La célébration écuménique avec tous les scouts dans une centaine de scouts qui se venaient de plusieurs villes.
Ok. Et si je me tourne du coup vers Gabrielle qui faisait partie de l'organisation de ce voyage, peut-être avant de parler vraiment que de l'organisation, est-ce que déjà tu peux nous faire un peu un historique rapide pour nous raconter qu'est-ce que c'est que les Lumières de la Paix de Bethléem?
Donc la Lumière de la Paix de Bethléem, ça commence en 1986. C'est la radio autrichienne ORF qui, pour la première fois, ramène une lumière qui a été allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, en Autriche, et qui la distribue à qui veut bien la recevoir en signe de paix. Ensuite, depuis 1988, il y a une célébration qui est organisée le troisième week-end de l'Avent pour diffuser la lumière vers les mouvements scouts de l'Europe. Et ça se répète depuis... chaque année. Et depuis 2003, les SGDF et les EUDF participent à cette célébration internationale et vont chercher la flamme à Vienne pour la ramener en France. Et donc, le but, c'est diffuser ce message de paix à travers cette petite flamme qui est allumée et qui passe de main en main. Qui veut bien la recevoir, scout, pas scout, croyant, non-croyant, c'est le message de paix qui prime dans cette action.
Et alors, un voyage comme ça, ça s'organise comment, en plus, intermouvement?
Ça s'organise, faut s'y prendre à l'avance. On commence vers février-mars et il y a plusieurs étapes. Il faut recruter des gens pour les différentes thématiques, la thématique des marches spirituelles. Donc créer du contenu chaque année, parce qu'on thématise l'édition chaque année. Il faut recruter des gens pour organiser les célébrations en France. Il faut assurer la communication autour de l'événement. Autant vers l'extérieur qu'en interne dans nos mouvements. On discute assez souvent pour que ça corresponde à nos deux mouvements, qu'aucun ne soit lésé. Il y a la délégation évidemment à préparer en termes logistiques, trouver les candidats, discuter avec les familles, tout préparer, la vivre pendant 3-4 jours, et puis revenir à diffuser cette flamme de décembre à janvier à peu près.
Et alors du coup, comment on trouve les candidats et quel est le projet pédagogique derrière cette action ?
Alors comment on trouve les candidats ? Mais on annonce que les dates de la délégation et la tranche d'âge à laquelle ça s'adresse. Et les enfants répondent.
C'est facile ? Genre les enfants ont répondu facilement ? Vous avez dit oui tout de suite, les filles, vous ?
Oui. Oui. Oui.
Merci pour ça, oui.
Et les enfants qui viennent sont toujours ultra motivés. Et la deuxième partie de question,
projet pédagogique.
Le projet pédagogique, il est construit selon deux axes. L'un qui est sur c'est le message de paix et la dimension spirituelle du projet. Et l'autre est axé sur être ambassadeur de son mouvement à l'étranger. Et ensuite, être ambassadeur et messager de paix en France et diffuser le message à tout le monde.
Valentine, Margot et Marie, je me retourne vers vous. Est-ce que vous le conseilleriez, ce voyage à...
Oui, oui.
Et pourquoi ?
On apprend plein de choses, on visite des nouveaux endroits et on se fait des amis. C'est une très belle expérience.
C'est une très grande aventure. Et on va chercher la flamme qui représente Jésus, fils de Dieu.
Et du coup, je vous regarde, vous regardez en essayant de vous repasser le label. Et du coup, la flamme, alors qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous avez ressenti de récupérer cette flamme et de la rapporter ensuite en France ?
De la joie ?
De la paix ?
Parce que du coup, toi, tu nous parlais, Gabriel, il y avait l'idée que c'était une délégation qui rassemblait la France, mais après que les enfants et les personnes qui reviennent en France sont ambassadeurs de...
Effectivement, c'est... En fait, les enfants qui constituent la délégation, ils viennent de toute la France. Et après, à la fin de la délégation, ils repartent dans toute la France. Et cette flamme, elle se diffuse partout. Donc, ça touche tout le monde.
Et alors, du coup... Si vous deviez résumer le voyage, qu'est-ce que vous diriez en plus de ce que vous nous avez un peu déjà dit ? Si vous, voilà, enfin, qu'est-ce que vous nous diriez ? Pourquoi, ouais, je repose la question, mais pourquoi vous conseilleriez à des amis ? Ça apporte de la joie ?
Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est important, et il y a le marché de Noël, et qui à Vienne, où il y a, quand on était... il y avait 4 bougies qui présentent l'avant. Quand on y était, il y avait 2 bougies allumées.
C'est inoubliable.
Quand t'as fait ça, tu peux le dire à tout le monde et c'est vraiment chouette.
Vous êtes fiers de l'avoir fait et vous aurez envie de le refaire l'année prochaine ou pas ?
Oui.
J'aurais envie de le refaire, mais je voudrais laisser la place aux autres.
Puis en plus, ça sera pas forcément notre tranche d'âge.
oui, pourquoi ? Pourquoi ce serait pas forcément votre tranche d'âge ?
Ça varie pas un peu tout le temps ?
Jusqu'à cette édition, c'est organisé par tranche d'âge et donc pour que le plus possible de scouts ou d'éclaireurs puissent le vivre. Et donc ça change les grands, les petits, les moyens et on tourne chaque année.
Ok, et l'année prochaine, a priori, ce sera quoi comme tranche d'âge ?
On sait pas, puisqu'on peut encore... On n'a pas encore reconstruit le projet cette année.
On est en mode débrief tranquillement.
Ouais.
Alors du coup, les filles, il paraît que vous avez écrit des messages, des prières et des petits messages. Est-ce qu'il y en aurait une de vous qui aurait envie de nous en lire un ?
La prière, on l'a déjà entendue dans le petit extrait de...
D'accord. Et du coup, tu as envie de nous lire quelque chose d'autre ?
Là, on va lire un texte que nous avons écrit nous-mêmes pour la lire à la célébration phare.
Super. Vas-y, qui veut le lire alors ? Vous le lisez toutes les trois ? Alors, du coup, c'est Margot qui commence, ensuite Valentine, et ensuite Marie.
Pour tous, cette lumière est un symbole de paix.
que le soit jeune ou vieux, LGDF ou EUDF, louveteau ou jeunette, on peut tous y participer. C'est une flamme qui vient de Bethléem. Elle a été transmise de main en main jusqu'ici.
Pour avoir cette flamme, il faut être patient et la mériter. Ce voyage permet de s'amuser et de se faire des amis et d'apprendre. Voici quelques souvenirs que nous en gardons.
L'échange de foulards avec les scouts étrangers. Rencontrer autant de scouts au même endroit. La visite de Vienne et se rendre compte des différences de culture. Constater la beauté de cette ville. La transmission de la lumière pendant la cérémonie. Les jeux avec les scouts français qui habitent à l'étranger. Ce voyage a été une véritable aventure.
Merci les filles, merci à toutes les quatre d'avoir été présentes avec nous. On vous souhaite une super bonne année dans vos unités.
Merci à toutes.
Merci.
Et alors du coup, tout de suite, l'actualité du scoutisme avec Paul.
Bonsoir à tous et à toutes. Pour commencer, je profite de ces derniers jours du mois de janvier pour vous le souhaiter, il est encore temps, une très belle année 2020 de la part de toute l'association des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. L'Assemblée Générale des EUDF avait lieu ce week-end à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Les débats sur la gouvernance et les finances de l'association ont animé cette réunion annuelle des délégués de nos adhérents et le nouveau rapport d'orientation a été adopté. Merci à l'équipe de la région Val-de-Seine qui a porté son organisation. On en reparle dans l'émission Ça se discute le mois prochain. Samedi 1er février, à Arcueil, dans le Val-de-Marne, vous avez rendez-vous à la Fabrique des Solidarités. Organisée par 4 associations du scoutisme français, dont l'équipe du projet Caribou, cet événement sera l'occasion d'aborder les questions de l'accueil des personnes exilées, migrantes et réfugiées dans le scoutisme. Plus d'informations et inscriptions sur le site eeudf.org. Autre rendez-vous fin mars, la commission formation du scoutisme français vous invite à participer aux assises des formateurs et formatrices pour se former, co-construire et découvrir les plans de formation des associations de scoutisme en France. Plus d'informations sur scoutisme-français.fr. Et on termine avec la nouveauté qui a été présentée ce week-end par la commission nationale branche cadette en charge de la pédagogie des louveteaux et des louvettes. Le nouveau carnet d'aventure est là. Il sera disponible dans quelques jours sur la boutique des unionistes et très vite dans toutes les meutes.
Wouhou ! Merci Paul pour cette information que l'on peut retrouver dès la fin de l'émission sur le site eeudf.org/sasdiscoute. On se quitte un instant avec une pause musicale pleine de lumière d'étoiles.
T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille. C'est qu'un jour, je pourrais y croire, somme. jour je pourrais lui plaire. Somme si d'air, ce désir qui monte en moi. Arrête-toi, quelques étoiles fuyantes, étoiles, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes.
Écoutez, ça se discute, l'émission des EEUDF sur Fréquence Protestante au 100.7 FM, et c'était la chanson « Ma belle étoile, ma bonne étoile » de M, ce cher Mathieu Chédid, dont les titres restent intemporels. C'est parti pour la seconde partie de notre émission.
Un foulard pour tous, le thème que nous abordons maintenant. Le scoutisme se veut une activité de loisir, ouvert à tous et à toutes. Alors, osons l'être plus en profondeur. C'est le défi que l'association se lance avec l'opération « Un foulard pour toutes » et tous. Avec nous ce soir, Alexiane, qui est à la fois responsable de la branche moyenne au Creusot, qui est aussi responsable du groupe aîné de Duguay-Clin, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir Alexiane.
Bonsoir.
Bonsoir Alexiane. Est-ce que tu peux nous présenter tes activités au sein des deux groupes locaux ?
Oui, alors, comme on le disait, je suis responsable de la branche moyenne au Creusot, donc là je viens en soutien sur les week-ends. Et ma mission principale, du coup, c'est d'encadrer mon équipe aînée à Duguay-Clin. Donc là, on est en première étape et c'est un processus qui se passe sur 2 ans. Et voilà.
Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, vos groupes locaux sont en milieu rural. Vous êtes très actifs et vous menez de nombreuses actions pour faire vivre un foulard pour tous. Tu peux nous les décrire ?
Oui. L'objectif de ce programme Un foulard pour toutes et tous, c'est de développer les effectifs enfants et responsables, et notamment à ceux qui connaissent pas le scoutisme ou du moins qui en ont jamais fait. Et pour ça, on essaye d'inscrire nos camps au programme Vacances pour tous avec les villes qui sont assez proches de nos groupes locaux. Et on le fait notamment avec la ville de Besançon. Et donc l'objectif, c'est de paraître dans ce programme afin que des enfants qui n'ont jamais fait de scoutisme puissent venir tenter l'expérience sur les camps d'été. Et on a aussi un partenariat avec l'IUT de Belfort-Montbéliard pour accueillir des étudiants stagiaires dans les équipes de responsables.
Et alors comment on fait pour séduire des jeunes, justement avec l'idée de vacances pour tous par exemple, comment on fait pour séduire des jeunes qui n'ont pas fait ou qui n'ont jamais fait de scoutisme surtout ?
Ouais. Alors le plus dur, c'est de les convaincre à venir, parce qu'une fois qu'ils sont là, généralement ils continuent. Et du coup, l'idéal, c'est de les inviter à une sortie ou à une journée sur un week-end au début. Donc notamment sur le week-end copain. Donc c'est un week-end où chaque enfant, chaque scout, louveteau ou éclaireur ramène un copain, une copine. Et c'est mieux de le faire sur un week-end car une journée c'est un peu trop court. Et sur le week-end copain, c'est d'autant mieux aussi. Parce que du coup, il y a plein de nouveaux et ça permet de ne pas se sentir trop perdu. Et en Franche-Comté-Bourgogne, on a aussi notre grand cours régional, le rallye. Et là, c'est un bon moyen aussi de venir toucher un peu à tout pour faire du froissartage, des grands jeux folklorisés, des techs, dormir sous tente, etc.
Et alors, si on prend la journée copain, finalement, est-ce que c'est une action qui réussit, qui vous arrivez à recruter comme ça des nouveaux jeunes ?
Oui, chez nous à Duguay-Clin, on l'a fait une fois par an, toutes les années. Et à chaque fois, on a au moins un tiers, voire la moitié des enfants qui reviennent au week-end suivant.
Est-ce que vous mettez en place des tarifs particuliers pour les activités ou pour les camps ?
Il n'y a pas de tarif particulier pour les camps ou les activités. Le prix, il est fixé, c'est le même pour tous. Après, il y a un tarif familial qui est possible pour s'il y a plusieurs enfants dans le même groupe. Il y a aussi la possibilité de régler en plusieurs fois, 2 ou 3 fois, les camps qui sont des fois un peu chers. Et il y a aussi les possibilités de faire des demandes d'avoir des aides financières auprès de la CAF, demander du Fonds national de solidarité, demander aux groupes locaux et avoir aussi des aides des assistantes sociales.
Et alors, tu nous as cité déjà quelques partenariats, mais apparemment, vous en avez mis en place beaucoup. Est-ce que tu peux nous en citer d'autres idées de partenariats ?
Ouais, donc on a celui avec l'IUT, celui avec le programme vacances. On a aussi pas mal de partenariats avec d'autres mouvements scouts, avec les GDF qui sont en situation de handicap, qui sont déjà venus sur un de nos grands coups participer à un grand jeu. On a aussi un partenariat avec les EEDF, où c'est que là, on a fait un camp l'année dernière ensemble. Donc, ça s'appelle Mon Vie, Mon Camp. Donc voilà, c'était pour découvrir différents mouvements, différentes pratiques, nos différences et ce qui nous rassemble. On a aussi des partenariats généralement avec les forums des associations. Donc c'est que là, ça nous permet de se faire voir, de faire connaître l'association et nos groupes locaux. Donc comme Campagne à la Ville à Audincourt. Donc voilà.
Et tu nous expliquais aussi que vous meniez de nombreuses actions d'information au niveau soit des maisons familiales, soit des structures d'éducation populaire. Comment vous vous y prenez ?
Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est une mission qu'on a mis en place depuis cette année, enfin depuis septembre 2019, et qui va se prolonger surtout 2020. Et cette mission, c'est assez long à mettre en place, et du coup, il faut aller faire du porte-à-porte, envoyer des mails, téléphoner pour présenter un peu l'association et des partenariats qu'on peut mettre en place. Et on démarche aussi les mairies des villes à côté.
Et comment vous faites ? Parce que du coup, oui, effectivement, c'est long et c'est fastidieux. Vous êtes combien et comment vous y prenez concrètement pour faire tout ça ?
Alors, généralement, c'est l'équipe régionale qui s'en occupe. Donc, il y a une personne généralement qui est dédiée à la recherche de maisons familiales et de structures d'éducation populaire qui va les relancer, qui va aller faire des mails. Généralement, c'est une personne de la région.
D'accord. Et ensuite, pour aller faire du porte-à-porte, vous y allez à plusieurs ou vous y allez tout seul ?
Non, ouais, c'est la même personne.
Ah ouais, dis donc, elle s'appelle comment ?
Là, notre équipière régionale qui s'en occupe, c'est Anaïs Roux.
Bon, bah, big up à Anaïs quand même, parce que c'est un gros boulot.
Ouais.
Carrément. Et du coup, est-ce qu'il y a des freins pour développer les EUDF en milieu rural ? Est-ce que vous avez identifié des obstacles ?
Ouais, enfin, oui, peut-être deux freins. Le premier, ce serait peut-être le fait que, c'est pas très important, mais c'est à prendre en compte, c'est peut-être le fait qu'on n'ait pas beaucoup, voire peu de transports en commun. Et du coup, il faut planifier assez à l'avance nos week-ends, afin que les parents se libèrent pour emmener les enfants. On met aussi en place beaucoup de covoiturage, donc c'est un peu une organisation. Et le deuxième frein... je dirais que c'est le fait qu'il n'y ait pas ou peu de propositions d'études supérieures vers nos villes, vers nos groupes locaux. Et du coup, dès que les aînés ils sont en âge de devenir responsables, elles doivent partir dans les grandes villes pour leurs études. Et du coup, à ce moment-là, on perd des effectifs responsables.
Eh bien, merci Alexiane d'avoir été avec nous. Bravo pour tout ce que vous mettez en place. Offrir un foulard pour tous et toutes, c'est vraiment le défi pour les EUDF de France en ce moment. Et les actions de chacun et de chacune y contribuent.
Merci Alexiane.
Merci d'avoir écouté.
Merci à toi. Big up Anaïs. Et avant d'aborder notre dernière partie d'émission, on refait une courte pause musicale avec des anti-rappeurs. J'ai rien d'un gangsta, j'ai pas de shit, j'ai pas de coke ni d'héros. J'ai pas de crew, j'traîne pas, faut que j'brosse mon interro. En soirée, mes potes se la jouent bière et vodka. Et Big Flo, c'est moi un grand verre de coca. Et tu me files un flingue, j'sais même pas m'en servir. J'fais quoi d'une Ferrari, j'ai toujours pas mon permis. J'ai déjà pleuré de 20 films, holy mélancolie. Moi j'suis allé en prison, mais qu'au Monopoly. J'avoue, je parle devant leurs clips, leur bling bling et leurs photos. Tout est vrai chez moi, sauf ma montre et mon polo. Pas de temps pour le sport, moi c'est le rap d'abord. Et dans mon clip, tu verras qu'un là. Et je gratte dans le métro, pas la taille d'un héros. Où j'étale le veto en freestyle sous le préau. Si je fais 10 pompes, je frôle le malaise. Mais le sourire aux lèvres, je vais terminer mon 16. Et je suis pas, et je suis pas, et je suis pas, je suis pas, je suis pas. Je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style. Pas les bras, mais les gangsta
dis-moi pourquoi t'es étonné. Je me réveille tranquille, normal, c'est samedi. Le soleil déjà levé, normal, c'est midi. Je me pose devant la télé avec un bol de miel. Pops, à peine fini de boire le lait que j'allume la Xbox. Des heures avec les amis, s'il vous plaît aidez-moi. Ouais, je suis un geek, je crois que j'ai raté ma vie à cause de GTA. Moi, je connais par cœur les casques de Bryce de Nice. Voici le premier rappeur sponsorisé par Leader Price. C'est pas marrant, j'ai souvent du mal à m'y faire. C'est moi le grand, mais on prend pour le petit frère. Je suis pas un gangsta, pas de flingue de ganja. Lève ta main si t'es. Ça. Toi, tu veux que je boive, que je baisse, que je fume. Mais ferme ta gueule et passe le chouette, ça grume. J'ai pas la vie de rêve, j'suis pas un type à l'aise. Mais le sourire aux lèvres, j'viens terminer mon 16. Et j'suis pas
un gangsta. Pas la peine de mentir, j'suis comme toi. J'suis pas un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras. Dans mon quartier, attention les yeux. Y'a beaucoup de morts parce qu'y'a beaucoup de vieux.
J'suis pas un gangsta, ouais j'suis fou d'admettre. Ils parlent tous de flingue mais ne tire jamais. Pourtant j'fais bouger les têtes, tu connais mes textes, connais pas ma technique. Mec mettez qui j'utilise le bingo, que des volingues, ouais évitez le bingo. Mat mon nez qui s'appelle les boules, ouais ça les dégoûte du canon. Des boules comme des fous dans la flamme, mais mon pote ils écoutent. Toi tu restes à l'écoute, on se serre, les fous, nous prennent pour des fous.
Vous écoutez toujours Ça se discute, l'émission des EEUDF sur fréquence protestante 100.7 FM, et c'était la chanson Gangsta de Big Flo et Oli. Dans cette troisième partie d'émission, nous avons eu envie de vous parler du Dry January. Car même si le mois de janvier est un peu avancé, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Sachez que les unionistes sont sur le coup avec un nouveau texte sur les conduites addictives dont on vous parlera très bientôt. Et aujourd'hui, nous avons avec nous par téléphone Micheline Claudon, psychologue clinicienne à l'hôpital Bichat à Paris, dans le secteur de l'alcoolologie et membre du conseil d'administration de la Société française d'alcoolologie.
Bonsoir Micheline. Merci Bonsoir. D'être avec nous. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est le Dry January ?
Oui, c'est une initiative qui s'inscrit dans la suite du mois sans tabac pour permettre à des personnes d'expérimenter quelques jours ou quelques semaines sans alcool, puisque chacun est en fait libre de choisir ce qui lui convient le mieux. C'est mois sans alcool, c'est janvier sobre, mais ça peut être aussi une semaine, trois jours, cinq jours, selon les modalités de chacun. C'est en fait permettre à chacun d'expérimenter quelques jours sans alcool et de voir ce que ça lui apporte.
Et alors, pourquoi il est important de sensibiliser notre société, et en particulier la jeunesse, à l'intérêt d'arrêter justement l'alcool pendant un mois complet ?
Alors, c'est pas forcément encore une fois un mois complet, j'insiste là-dessus, parce que ça peut être quelques jours, quelques semaines. L'important, c'est de sensibiliser en effet notre jeunesse au fait que la fête n'est pas synonyme d'alcool. Beaucoup de mouvements de jeunes ont expérimenté, notamment dans les villes universitaires, sans alcool, la fête est plus folle. Et c'est exactement dans cette lignée-là. Faire la fête, c'est pas forcément faire la fête avec de l'alcool.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les effets positifs qu'on peut constater après soit quelques jours, soit un mois d'abstinence ?
Alors, il y a différents effets. Hein. Le premier effet, ça va être des effets immédiats. Tout bêtement, se réveiller plus en forme. Si on a une tendance, un petit peu comme nos jeunes peuvent l'avoir aussi, à se poser des questions dans une vie pas très facile, eh bien, l'idée selon laquelle on consomme de l'alcool parce qu'on est déprimé est une idée fausse, en fait. Souvent, on est déprimé parce qu'on consomme de l'alcool. Eh bien, quelques jours, parfois, suffisent à voir qu'en effet, ce qui était un peu à l'origine des idées tristes s'envole et que, en effet,
ce qui va être le contrepoison, si je puis dire, ça va être par exemple une relation fraternelle.
D'accord, merci. Et alors, ça n'engage que moi, mais il m'apparaissait important de le préciser aux auditeurs que cette opération de prévention devait initialement être soutenue cette année par les pouvoirs publics qui l'avaient annoncée, mais que ces derniers ont subitement fait marche arrière, selon plusieurs associations, ce serait sous la pression de lobbies alcooliers. Cela étant dit, si on revient du coup à la sensibilisation, Micheline, vous, quels sont les autres types d'actions de sensibilisation que vous menez en dehors de ce que les associations peuvent mener avec ce Dry January toute l'année? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, toute l'année, moi, j'incite tous les intervenants de proximité à aborder la question de l'alcool, alors que ce soit dans le cadre de soirées, que ce soit des entourages. Finalement, c'est parler le plus tôt possible et ne pas surtout ne pas attendre que la personne formule une demande, quel que soit son âge. C'est-à-dire, on trouve ça très marrant de voir quelqu'un s'alcooliser, mais en fait, quand ça se répète et quand finalement il a perdu, parce que même chez les jeunes, il peut y avoir des pertes d'emploi, de santé, des accidents, eh bien, essayer de lui en parler le plus tôt possible. Là aussi, c'est sensibiliser aussi les enseignants, sensibiliser les médecins du travail, toutes les personnes qui approchent. C'est vraiment notre idée, c'est d'oser en parler. Et notamment, moi, mon principal objectif, c'est de permettre à des semblables, et notamment des jeunes, parlent aux jeunes, ce qu'on appelle les patients experts.
Et on va y revenir tout de suite plus en détail. Je voulais juste rappeler quand même des chiffres importants. L'alcool coûte la vie à 45 000 personnes chaque année. Il s'agit de la deuxième cause de mortalité prématurée. Et l'alcool est également directement impliqué dans 23 000 décès par cancer des voies aérodigestives supérieures, par cirrhose ou par mort prématurée liée à l'alcoodépendance. Pourtant, justement, encore trop de jeunes pensent que c'est uniquement l'alcool au volant qui en est la principale raison. Et du coup, je laisse Catherine...
Effectivement, vous êtes, Micheline, à la fois psychologue et clinicienne à l'hôpital Bichat de Paris. En quoi consiste votre métier exactement?
Alors en fait, pour être complètement exact, j'ai été psychologue clinicienne à Bichat pendant 40 ans. Je suis aujourd'hui retraitée et du coup, je me consacre beaucoup plus justement à permettre à des patients de s'exprimer auprès d'autres patients. Alors pour revenir, mon travail, ça a consisté d'abord à aller rencontrer des gens de tous les âges qui étaient hospitalisés sans demande de soins alcoolologiques. Et donc de les rencontrer en orthopédie, en neurologie, et de profiter de leur passage à l'hôpital pour initier un soin, notamment en rencontrant des semblables. Aujourd'hui, je poursuis mon activité en activité libérale et en formation auprès de différents intervenants de proximité. Le travail, c'est aussi de dire que la santé n'est pas forcément un bon levier. Les jeunes, notamment, ils considèrent qu'ils sont tout puissants et que ça ne les atteindra jamais. Donc, c'est peut-être d'autres leviers, comme notamment ne plus se souvenir de ce qu'on a fait et perdre.
Le blackout.
Perdre, notamment, perdre l'estime de soi.
Le blackout, vous parlez quand vous dites ne plus se souvenir de ce qu'on a fait?
Oui, beaucoup de gens qui ont expérimenté ce qu'on appelle une cuite, ils ne se souviennent plus. Alors la première fois ça fait rire et ensuite ça fait de moins en moins rire parce qu'on ne sait plus, notamment avec nos moyens d'aujourd'hui, les mails qu'on a envoyés, et la honte vient souvent au réveil le matin en se disant à qui j'ai téléphoné, à qui j'ai écrit, qui j'ai insulté, et ça c'est assez terrible.
Et qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur leur consommation?
Eh bien, d'aller sur des sites très alco-jeunes ou sur le village des addictions, qui sont des sites qui permettent d'évaluer sa consommation et de voir aussi quels sont les éventuels risques, non pas en termes, encore une fois, de santé, mais en termes de petit à petit, l'alcool et les autres produits addictifs, finalement, vont prendre la place de la relation humaine. Et ça, c'est ça le vrai danger dans la population jeune, c'est de choisir plutôt de prendre de l'alcool et finalement ça éloigne et ça rapproche pas.
Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui nous écoutent les recommandations de consommation quotidienne ou hebdomadaire?
Absolument. Alors, les recommandations, c'est pas plus de 2 verres par jour, avec un jour de sobriété, pas plus de 4 verres par occasion. Hein. Évidemment, quand chez une jeune femme en état de grossesse, 0 alcool pendant la grossesse. Mais encore une fois, ces recommandations donc sont tout à fait justes. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer soi-même les bienfaits d'un arrêt de quelques jours à quelques semaines.
Merci beaucoup Micheline pour toutes ces recommandations. Donc on rappelle les sites Village des addictions ou Alcool Jeune pour évaluer sa consommation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Gabriel, merci à Valentine, merci à Pauline, merci à Marie. Merci à Margot, Alexiane et Micheline d'avoir participé à cette émission. Merci à Paul pour sa chronique et surtout à ma chère Catherine de m'avoir accompagnée. Merci à Manu, à la technique. C'est la fin de Ça se discute. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait beaucoup de merci, mais merci. On se retrouve lundi 24 février pour une nouvelle émission spéciale Assemblée Générale des EEUDF. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Fréquence Protestante. Stay tuned.